Et donc, vous avez soulevé un certain nombre de grandes questions pédagogiques, hein, parce que savoir que les enfants français restituent mal et relativement mal par rapport aux pays comparables le sens d'un texte qu'ils ont peu de plaisir à lire ou qu'ils répondent moins volontiers aux questions qu'on leur pose, voire ne répondent pas du tout, c'est vraiment une question qui est posée à l'école française et à ses pédagogies. François Taddeï, vous êtes au départ chercheur en biologie, vous êtes initiateur du centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, qui est basé à l'université Paris 5, et vous êtes... Vous participez beaucoup au débat éducatif et au débat sur l'innovation en matière d'éducation, particulièrement en matière de numérique. Est-ce que vous vouliez réagir au propos de Michel Quéré sur les performances de la France ? Je suis désolée pour le micro qui est très sensible. Si je m'approche, je parle très fort. Si je suis loin, on ne m'entend pas. Donc, est-ce que vous vouliez réagir à ces propos ?
Je vais essayer ce micro-là. Donc, je pense que le titre, c'était « L'école pour tous au XXIe siècle ». Et je pense qu'il y a effectivement des questions, parce qu'une bonne partie du débat qu'on est en train d'avoir, on aurait pu l'avoir à d'autres périodes. Il y avait un très beau texte qui dit que ça fait au moins 50 ans qu'on dit qu'il y a des problèmes, alors qu'en fait, ça fait au moins 100 ans. Et ce texte date de 1632. D'accord ? Donc, ça ne date pas d'hier, les problèmes dans le système éducatif. Mais ce qui est intéressant, c'est quels sont les éléments nouveaux. Donc il y a de la recherche en sciences cognitives, et on en parlera dans quelques instants, et puis il y a le numérique qui change profondément la relation de tout citoyen au savoir et la manière dont les savoirs sont acquis, transmis, construits, et donc ça c'est quand même des éléments très nouveaux, et c'est intéressant que le ministre ait fait les annonces aujourd'hui sur ce sujet, parce que il a aussi annoncé qu'il y avait quand même eu je crois 16 plans numériques en 30 ans, et visiblement, il ne s'est pas passé grand-chose dans les faits. Donc il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça, et en quoi est-ce que ça amène des éléments nouveaux ou pas ? Je pense qu'il y a par exemple une étude anglaise qui est sortie le mois dernier, qui montre qu'il y a des centaines et des centaines et des milliers d'innovations liées au numérique, et il y en a au moins 150 qui marchent. D'accord, ça ne veut pas dire qu'elles marchent toutes, ça ne veut pas dire qu'aucune ne marche, mais c'est intéressant. Donc ça veut dire aussi qu'il ne suffit pas d'annoncer des choses, il faut évaluer les meilleures pratiques, il faut les bâtir sur ce qui marche bien dans différents contextes, et il faut voir si ça fonctionne ici. Il faut partir dans cette étude, il résume à la fois des études venant de la recherche et des études venant du terrain. Donc des enseignants, des différents types d'innovations, et ils les ont évalués systématiquement. Et c'est intéressant parce qu'il y a à peu près 50% des meilleures pratiques qui viennent des enseignants et 50% qui viennent des chercheurs. Donc c'est intéressant, mais s'ils travaillaient ensemble, peut-être qu'ils feraient encore mieux. Et ça, il y a quelques endroits où ça se produit, mais relativement peu. Hein, par exemple, au Canada, ils ont un concept d'enseignant-chercheur. Mais ce n'est pas seulement le concept d'enseignant-chercheur de l'université tel qu'on le connaît ici, c'est le concept d'enseignant-chercheur au primaire ou même avant. D'accord. Et ça, c'est intéressant. On a un ministre qui a fait un doctorat après avoir été enseignant. Combien des 60 000 postes seront fléchés pour que des enseignants puissent faire des doctorats ? Quand ils sont en train d'innover, comment est-ce qu'on les aide à aller d'une part plus loin, à évaluer bien ce qu'ils font et à les aider à transmettre à d'autres collègues ce qu'ils ont fait ? Or, quand ils innovent beaucoup, généralement, ils passent beaucoup de temps et leurs collègues disent « Ah bah ouais, toi, tu fais tout ça, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai ceci, j'ai cela. » Et par contre, si on sait abaisser la barrière et faire qu'une innovation réussie, parce qu'elle est accompagnée, on définit un process pour que ceux qui veulent l'appliquer puissent le faire plus facilement, alors ça diffusera plus simplement. D'où un problème important, d'une part, de recherche et d'innovation, d'autre part, de formation continue. Et là, ce qui était intéressant, encore une fois, dans les annonces d'aujourd'hui, c'est l'insistance sur la formation continue, d'une part, mais la formation continue au et par le numérique. D'accord ? Et avec, en particulier, l'annonce d'une école supérieure de formation des enseignants centrée sur le numérique et par le numérique. D'accord ? Et ça, je pense que c'est un élément intéressant, parce que si vous voulez former de l'ordre de 900 000 enseignants en formation continue, il y a un vrai problème de passage à l'échelle. Et donc, c'est déjà pas évident de former les dizaines de milliers qui vont être recrutés dans les 5 ans à venir. Et il y a une réflexion qui est en cours là-dessus, et je pense qu'elle a besoin de s'inspirer des meilleures pratiques. On voit par exemple à Singapour, il y a un certain nombre de pays qui ont l'air de très bien fonctionner. Je pense que nos amis de l'OCDE pourront revenir sur ce genre de choses. Mais les chiffres qu'on a appris également au niveau de l'OCDE, et à ma connaissance, les Français n'ont pas donné ces chiffres-là, c'est que si vous faites le ratio des budgets qui sont investis dans la recherche biomédicale, ou dans la recherche militaire, ou même dans la recherche agricole, vous apercevez qu'on dépense 9 à 15 fois moins pour la recherche dans le domaine de l'éducation que dans la recherche dans ces domaines-là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quelles sont les raisons historiques, sociologiques, politiques ? Est-ce qu'on croit que la recherche ne sert à rien ? Première question. Ou est-ce qu'on croit que, en fait, elle n'est pas souhaitable parce qu'on ne veut surtout pas améliorer le système ? Enfin, je veux dire, on peut se poser un certain nombre de questions par rapport à ça. Je ne pense pas avoir toutes les réponses, mais je pense qu'il est très important, politiquement, économiquement, pédagogiquement, de combler au moins une partie de ce retard le plus vite possible. Et un plan pluriannuel où on se mobilise tous au niveau de la nation sur l'école, à mon avis, doit combler cet écart si on veut faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Et également éventuellement contribuer au concert des nations sur ce sujet, parce qu'il y a évidemment des pays qui sont plus en avance que nous là-dessus, hein, parce qu'en France on n'a pas le chiffre, donc c'est peut-être moins de 1 sur 15, ce que je trouve personnellement dramatique. Et quand on regarde, moi je viens donc de la recherche biomédicale, donc je peux dire que je suis content parce qu'on est plutôt mieux lotis que les autres, mais la recherche biomédicale, historiquement, il y a eu tout un tas d'apports de gens n'étant pas médecins. Louis Pasteur n'était pas médecin du tout. Et c'est un de ceux qui, au moins en France, a fait progresser la recherche sur ces sujets au moins autant que tous les autres réunis. Donc c'est intéressant. Et donc c'est intéressant de voir des gens dans les sciences cognitives ou venant... par exemple, il y a un mouvement que le numérique permet aujourd'hui qui est ce qu'on appelle en anglais les « learning analytics ». Learning analytics, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'attendre 3 ans pour avoir PISA, et puis en débattre à ce moment-là, vous pouvez avoir des données quasiment en continu, et qui peut les avoir ? Alors là, il y a un vrai débat de société. Moi, je pense que le plus important, c'est que l'apprenant lui-même, l'enfant, l'élève, l'étudiant, puisse avoir accès à ces données instantanément. Et vous savez tous que, depuis les Grecs au moins, connais-toi toi-même est un principe de base de toute éducation. Et donc, l'enfant peut arriver à voir sa progression, et sa progression dans plein de dimensions. D'accord ? Quand les enfants jouent à des jeux aujourd'hui, ils voient tout de suite leur progression, et ça leur donne envie de continuer à progresser et de continuer à jouer. Donc ça, je pense que c'est un exemple sur lequel on peut aller. Ensuite, les parents peuvent éventuellement y avoir accès, les enseignants peuvent y avoir accès, les chefs d'établissement, et puis l'ensemble de la hiérarchie jusqu'au ministre, ils pourraient avoir en beaucoup plus fréquemment un certain nombre de données. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand vous avez les outils numériques, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez plusieurs enfants, des dizaines de milliers, voire plus, et c'est en train de se produire aux États-Unis dans plein d'endroits, qui suivent, qui apprennent avec un même logiciel, eh bien, ce logiciel, vous pouvez le faire évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez tirer aléatoirement différents groupes d'enfants et leur donner 2 versions légèrement différentes du logiciel. Et vous pouvez voir s'il y a quelque chose qui marche mieux que l'autre. Et donc, vous pouvez en permanence faire évoluer vos logiciels. En fait, c'est comme ça que tous les jeux évoluent quasiment sur le web. Et c'est pour ça que les jeux fonctionnent toujours mieux, qu'ils sont plus addictifs, que les enfants sont super contents de jouer à ces jeux. Eh bien, on peut faire exactement la même chose avec des logiciels ludo-éducatifs ou avec des logiciels éducatifs, avec des simulations, avec tout un tas de choses. Et donc ça, vous pouvez, en temps réel quasiment, expérimenter, améliorer votre système. Et vous pouvez arriver à faire ce que moi j'appelle des écosystèmes d'apprentissage coopératifs, où les apprentissages de chacun contribuent aux apprentissages de tous. Donc il y a les dimensions que je viens de dire, et puis il y en a une autre qui est peut-être plus facile encore à appréhender, c'est que, par exemple, nous on fait ça au niveau universitaire, mais vous pourriez le faire à tous les niveaux. Nos étudiants, à chaque fois qu'ils prennent un cours de biologie, leur contrôle continu, c'est d'améliorer la page Wikipédia en français sur les concepts qui ont été abordés dans le cours. C'est ça qu'ils doivent faire d'une semaine sur l'autre. Et donc, ils ont appris quelque chose, mais ils contribuent à le partager et ils font que les ressources, le différentiel qu'il y a entre la qualité des ressources en anglais et en français, ça menuise. D'accord. Donc plutôt que de faire des cours d'anglais ou des cours de biologie où les copies finissent dans la poubelle et où éventuellement on a appris quelque chose mais personne d'autre n'en bénéficiera, là tout d'un coup vous avez fait quelque chose où tout le monde va pouvoir bénéficier de l'apport que vous avez apporté à l'ensemble de la communauté. Et donc à ce moment-là c'est très motivant. Un autre point qui était intéressant aujourd'hui, pendant que le ministre parlait, c'était rediffusé, et il y avait une classe qui tweetait. C'était une classe de primaire qui tweetait, qui suivait ça et qui expliquait à quoi ça servait Twitter, à quoi ça servait le numérique. Et bien, il disait à quel point ça les motivait, en fait, d'avoir du numérique, parce que, en fait, les enfants qui tweetent, quand ils apprennent à lire et à écrire, ils se rappellent une chose, c'est que lire et écrire, c'est pas juste pour faire plaisir à la maîtresse ou faire plaisir à maman et papa, c'est fondamentalement pour communiquer. Et donc, on écrit des choses, elles sont lues, on a une réponse, on la lit et on est dans un échange, dans une co-construction. Et au passage, on doit aussi, on apprend sa grammaire, on nous rappelle les devoirs. Ils ont dit tout un tas de choses. On apprend éventuellement de l'anglais. On peut échanger avec une classe à l'autre bout du monde et donc on apprend la géographie. Et donc on est dans cet échange parce que le monde est ouvert. Et donc le ministre a insisté sur là-dessus. Ce n'est pas à moi de résumer les propos du ministre. De toutes les manières, ils seront dans la presse et vous y aurez tous accès. Mais moi, je trouve intéressant de voir ces enfants et leurs réactions. Je trouve intéressant que dans ces annonces, il y avait justement une enseignante qui était là et qui disait à quel point elle avait besoin, elle aussi, de coopérer et d'échanger avec d'autres enseignants pour ne pas être obligée de réinventer la roue à chaque fois. Et ça, le numérique le permet. Et si les meilleurs enseignants, ceux qui sont les plus innovants, ceux qui ont été évalués comme particulièrement efficaces avec leurs élèves, peuvent être amenés à transmettre ce qu'ils ont fait par le numérique et donc à le rendre accessible à tous les enseignants qui le souhaiteront sur l'ensemble du territoire et même au-delà, hein, puisque j'étais l'autre jour à l'Organisation internationale de la francophonie, je ne sais pas si vous savez, mais 9 sur 10 des pays les plus en retard chez les plus jeunes sont des pays francophones. Donc ça, ça fait mal. Enfin, moi, ça m'a fait mal, honnêtement, quand j'ai appris ce chiffre. Hein, ça veut dire que non seulement notre système a des difficultés ici, mais quand on l'a exporté, en fait, on a mis les gens dans une situation qui est encore pire. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et donc on a besoin d'échanger, et on a une responsabilité à la fois au niveau national et au niveau international qui est d'échanger sur ces pratiques et d'impliquer l'ensemble des acteurs qui le souhaitent à faire ça. Et parfois, on peut apprendre des choses remarquables de pays du tiers-monde. Hein, par exemple, en Inde, ils ont des programmes pour les décrocheurs scolaires, ils en font des entrepreneurs. D'accord. J'y reviendrai si vous le voulez, mais c'est intéressant de se dire qu'on peut prendre des gamins de 15 ans et au lieu de les envoyer au chômage, on en fait des entrepreneurs qui vont créer leur propre emploi et qui vont en créer d'autres. Donc ça, c'est quand même des concepts qui méritent d'être creusés. Il y a aussi des pays comme la Colombie où les enfants de milieux de zones rurales réussissent mieux que les enfants de citadins. Ben voilà, donc est-ce qu'on a des choses à apprendre par rapport à ce genre de pays? Et donc il faut avoir un peu d'humilité, regarder les meilleures pratiques internationales, qu'elles soient dans les pays en tête de PISA et par exemple à Singapour, ils font des choses très intéressantes. C'est un pays de tradition confucéenne, comme vous le savez. Néanmoins, on incite les enfants et les enseignants à développer une démarche socratique, c'est-à-dire à se questionner et à se questionner sur leurs apprentissages et à se questionner collectivement. Et par exemple, les enseignants s'interrogent individuellement et collectivement régulièrement sur est-ce que je peux améliorer la pratique pédagogique que je suis en train d'avoir? Est-ce que je peux aider toujours mieux les élèves? Et donc, en fait, fondamentalement, ils positionnent leurs écoles, leurs enseignants, dans une démarche apprenante. D'accord. Je lisais l'autre jour un article du Monde académique qui disait que les universités n'étaient pas des entités apprenantes. C'est quand même assez remarquable, c'est des entités qui sont où on a toujours des cohortes d'enfants et d'étudiants qui arrivent et d'une génération à l'autre, et ben ça s'améliore pas, c'est quand même embêtant. Donc on a besoin d'apprendre comment améliorer le système, et pour ça on a besoin de regarder les meilleures pratiques en France, les meilleures pratiques à l'international. On est un grand pays de 60 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'on représente 1% de l'humanité. D'accord. Donc si on représente 1% des innovations et des meilleures pratiques, c'est déjà bien. Mais ça veut dire qu'il y en a au moins 99% qu'on peut aller regarder ailleurs. Et ça, ça suppose qu'on forme les gens à lire déjà ce qui se passe dans d'autres communautés, et pas uniquement la communauté anglophone. Voilà, je vais peut-être m'arrêter parce que...
On va passer la parole à Hervé Gazelle.
Je voudrais juste demander, d'une part à François, de répéter ce qu'il a dit sur les pays francophone et la donner, parce qu'elle elle intéresse mon voisin de droite et nous tous, mais on voulait l'entendre répéter. Et la deuxième, c'est que je dois vous avouer que dans le numérique, eh bien, il y a aussi une... Donc c'est très virtuel, le numérique, et de temps en temps, c'est très matériel. Alors en l'occurrence, la clé 3G, elle envoie des SMS, mais elle ne les reçoit plus. Donc j'ai l'impression que ça n'intéresse personne, mais en même temps, quand moi j'envoie des petits tests, ça n'est pas reçu non plus. Donc on va vous donner un autre numéro de téléphone. Et parce que quand c'est très matériel, c'est que le format de la chose là ne rentre pas dans le machin là. Donc...
Papier.
Voilà, soit des petits papiers, soit un autre numéro de téléphone, le 06, je vois des bons élèves là, 11 56 44 70. Voilà, et donc on va pouvoir reprendre langue avec la salle, mais si entre-temps François pouvait répéter son information sur...
Cette information, elle m'a été donnée par un ancien ministre de l'éducation en Afrique qui était un des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'était donc qu'il y avait 9 sur 10 des pays les plus en difficulté dans l'apprentissage des plus jeunes étaient des pays francophones. Donc je n'ai pas vu l'étude qu'il a utilisée pour faire ça et je serais ravi de la récupérer. Je peux essayer de le recontacter si ça intéresse des gens. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie d'avoir l'information première. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant et quelque part, ça nous donne une responsabilité tout à fait importante au niveau de la francophonie. Hein, la francophonie, on peut aussi certainement apprendre de un certain nombre de pays qui sont très innovants, que ce soit des pays, on voit bien les jeunes Tunisiens par exemple, je pense qu'en termes d'apprentissage, de mobilisation, on a certainement des choses à apprendre d'eux. Nos amis canadiens sont très forts sur le numérique depuis très longtemps, en partie parce que ils ont un territoire très étendu et ils ont eu besoin, comme les Finlandais, de s'emparer de ces outils pour rendre accessible la diversité des possibilités d'apprentissage au plus grand nombre. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de pays, que ce soit des pays francophones ou non francophones, dont on peut apprendre des meilleures pratiques. Comment est-ce qu'on forme les enseignants? Comment est-ce qu'on couple la recherche, l'éducation, et pas seulement la recherche en éducation, mais aussi la recherche venant des autres disciplines, hein, ce que je disais tout à l'heure, la recherche en sciences cognitives, la recherche en statistiques, la recherche en informatique, la recherche y compris sur les notions d'écosystème. Comment est-ce qu'on peut arriver à intégrer ces différentes dimensions pour améliorer les choses? Et quand on parle de formation disciplinaire, je ne sais pas si vous savez ici quel est l'âge des plus jeunes auteurs de publications scientifiques. Mais moi j'ai été assommé le jour où j'ai appris ça, c'est 8 ans, d'accord ? Donc en fait les jeunes, il y a un article qui vient d'être traduit, qui était publié dans Science, qui vient d'être traduit en français aujourd'hui même, qui montre que en fait les enfants naissent scientifiques, d'accord ? Ils naissent curieux, ils naissent explorateurs du monde, ils naissent expérimentateurs et ils modifient... À partir de leurs observations, ils font des hypothèses. À partir de ces hypothèses, ils les testent. À partir des résultats, ils modifient leurs hypothèses. Et ils le font avec ce qu'on appelle les statistiques bayésiennes, qui sont les formes les plus avancées de statistiques aujourd'hui. D'accord ? Et ça, ils font ça spontanément dès 2 ans. D'accord ? Et donc, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'il y a des recherches fondamentales qui nous montrent que si on encourage la curiosité et la créativité et qu'on ne l'endort pas, parce que c'est quand même le point que vous avez soulevé tout à l'heure, à ce moment-là, on peut la maintenir. Et les pays qui ont des pratiques pédagogiques qui encouragent le questionnement vont beaucoup plus loin. Quand on vous dit, votre enfant, il est charmant, mais il pose des questions, moi, ça m'interroge.